demande le peuple.
Tu parles tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le troisième épisode de notre série consacrée cette semaine à l'histoire d'un phénomène politique, le populisme français de gauche ou de droite. C'est la question à laquelle nous tentons de répondre avec l'historien Marc Lazard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'émergence en France du populisme avec le général Boulanger qui, dans les années 1880, a fait trembler la Troisième République. Après la Première Guerre mondiale, un nouveau populisme émerge avec les ligues nationalistes.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu au Place de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Le 6 février 1934, la grande manifestation parisienne qui a tourné à l'émeute est un des moments les plus tragiques de l'histoire de France au XXe siècle. Ce jour-là, les ligues d'extrême droite ont-elles failli renverser la Troisième République ?
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Depuis la fin de la guerre 14-18 et surtout avec la crise économique et politique au début des années 30, on assiste à la montée en puissance de mouvements, les ligues, qui ne se considèrent pas comme des partis, mais prétendent exprimer un certain mécontentement populaire. Leur point commun, leur haine du parlementarisme. Les principales ligues qui vont s'illustrer le 6 février 34 sont l'Action française, mouvement nationaliste, royaliste et antisémite, dirigé par Charles Maurras et dont les camelots du roi forment le service d'ordre. Les Croix de Feu, ligue d'anciens combattants fondée par le colonel de la Roque, qui se transformeront en PSF, Parti social français. Les Jeunesses patriotes, JP, créées par l'homme d'affaires et député Pierre Tétinger. Solidarité française, ligue fondée par l'industriel parfumeur François Coty. Au début de l'année 1934, la tension est très vive quand on apprend la mort d'Alexandre Stavisky, un affairiste d'origine juive ukrainienne, compromis dans plusieurs escroqueries et soupçonné d'être protégé par des députés radicaux. Suicide ou assassinat déguisé ? L'extrême droite se saisit de cette affaire qui réunit tous les thèmes dont elle se nourrit. Antisémitisme, xénophobie, anti-parlementarisme et haine de la République. Tout le mois de janvier, appelé par l'Action française, des manifestations se succèdent au cri de « Abat les voleurs ». Mais début février, c'est la nouvelle de la révocation du préfet de police Jean Chiappe, réputé pour sa complaisance envers les ligues d'extrême droite, qui met le feu aux poudres. Plusieurs manifestations sont prévues le 6 février. Le premier défilé est celui d'une organisation d'anciens combattants proches du Parti communiste, l'ARAC, qui proteste contre les scandales financiers, mais dont l'objectif n'est pas le Palais Bourbon. Ses adhérents vont remonter les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe et non les descendre vers la Concorde. Le colonel de l'ARAC n'a pas l'intention, lui non plus, de marcher sur la Chambre des députés. D'ailleurs, dès les premiers coups de feu, il ordonnera à ses croix de feu de se disperser. En réalité, les émeutiers qui vont s'opposer aux forces de l'ordre appartiennent à l'Action française, aux Jeunesses patriotes et à Solidarité française. Le 6 février, les ligueurs se rassemblent place de la Concorde. Leur but, s'emparer de la Chambre des députés de l'autre côté de la Seine. Commencés en fin d'après-midi, les heurts avec la police, très violents, se poursuivent tard dans la nuit. Les manifestants, de plus en plus nombreux, environ une dizaine de milliers, réussissent à progresser sur le pont de la Concorde. Très déterminés, ils utilisent des armes à feu, toutes sortes de projectiles, et avec des lames de rasoir, ils tailladent les jambes des chevaux. D'abord débordés, les forces de l'ordre, grâce à des renforts, réussissent à protéger le Palais Bourbon et à mettre fin à l'émeute vers 2h30 du matin. Mais le bilan est lourd. 15 morts, 14 civils et un policier, et près de 1500 blessés. Les conséquences politiques également, la République, si elle n'a pas été renversée par les ligues, sort fragilisée de l'épreuve. Le 12 février, une manifestation contre le fascisme est organisée à Paris. Léon Blum y prend la parole.
Citoyens, Paris, rassemblés dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qui ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier.
Contre le fascisme et le royalisme, les forces de gauche décideront de s'unir en vue des élections législatives de 1936, une union qui annonce la formation du Front populaire. Marc Lazare, les ligues ont-elles failli renverser la Troisième République le 6 février 1934 ?
Une partie d'entre elles, certainement, vous venez de le dire, a tenté de s'emparer de la Chambre des députés, mais vous l'avez rappelé, c'est très important, les croix de feu du colonel de la Roque ne se sont pas mêlées à cela. En tout cas, ça a été interprété comme cela. Ça a été interprété par une partie des Républicains et surtout par la gauche, qui a vu cela comme une tentative de coup d'État fasciste.
On est dans un contexte quand même compliqué avec Mussolini et Hitler.
Alors, Mussolini 1922, Hitler en 1933, effectivement, depuis quelques années, des tensions très fortes, y compris dans la rue, entre un certain nombre de ces ligues et les forces de gauche, notamment les forces du Parti communiste, mais aussi de la SFIO, qui avait des groupes d'autodéfense, donc il y a de la violence dans la rue. Alors attention, ces ligues, ne les amalgamons pas toutes. Par exemple, je le dis très clairement, l'Action française, pour moi, je ne l'intègre pas comme un mouvement populiste.
Oui, parce que c'est plutôt un mouvement royaliste.
D'une part, c'est un mouvement royaliste, et quand on voit ce qu'écrit Maurras, Maurras n'a aucune envie de confier le pouvoir au peuple. C'est très clair. Je considère que dans ces ligues, j'en prends trois. Celui des Jeunesses Patriotes, de Pierre Tétinger, vous l'avez rappelé, où il y a effectivement une dimension d'appel au peuple, avec une critique très dure du Parlement et des parlementaires. Le deuxième, c'est le Comité de défense paysanne d'Henri Dorgère, qui est un mouvement très important. Qui,
on en parle rarement.
On en parle rarement, mais qui a été très bien étudié, sur lequel effectivement je m'appuie dans ce livre pour expliquer ce qu'il a été. Le comité de défense paysanne voulait défendre le peuple paysan. Dorgère se référait aux paysans comme expression du peuple français dans son essence même. C'est-à-dire que le paysan, pour Dorgère, porte véritablement l'essence de la France, l'identité de la France, par ses capacités, par son intelligence, par sa réalité, par son contact avec la terre.
Et comment ce mouvement s'est-il exprimé dans les années 30 ?
Alors, il s'exprime par d'abord des contestations et des révoltes contre le fisc. Ça, c'est un élément très important. Au départ, c'est des révoltes fiscales, donc parfois avec des violences. Et puis aussi avec des défilés, notamment organisés avec des chemises vertes. Et donc, ça a évoqué pour la gauche le fascisme, quand bien même Henri Dorgère, qui a regardé à un moment donné du côté de Mussolini, s'en est démarqué assez rapidement. C'est pour ça que tout le débat sur y a-t-il eu un fascisme français est particulièrement compliqué. Mais en tout cas, il y avait cette expression d'une forme de populisme, un populisme paysan, avec un homme d'ailleurs, Henri Dorgère, qui, du point de vue de son expression, est quelqu'un qui est un véritable militant, qui voyage dans des conditions difficiles, qui est adulé par ses soutiens. Le troisième plus complexe, c'est les Croix de Feu qui ensuite vont devenir, effectivement, après leur dissolution, le Parti Social Français qui va devenir un grand parti de masse. Et les Croix de Feu, à la fois, il y a une critique du Parlement, mais attention, le colonel de la Roque n'a jamais voulu abolir le Parlement. C'est un élément très important, il veut avoir un Parlement rationalisé, un pouvoir exécutif plus fort, et il a une forme d'ambivalence par rapport au peuple, c'est-à-dire qu'à la fois, il fait référence au peuple de France, il conteste les partis politiques, et en même temps, en quelque sorte, c'est les élites qui doivent diriger le peuple. Albert Kechichian, qui a consacré son livre aux Croix de Feu, dit qu'au départ, c'est une aristocratie de la bravoure. Très belle expression.
C'est aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale,
exactement.
Les anciens combattants.
Mais en même temps, justement, le peuple chez les Croix de Feu, comme d'ailleurs pour les autres ligues, eh ben c'est ce peuple qui a existé au moment de la Première Guerre. C'est la fraternité du front, la fraternité des tranchées. Ça, c'est un élément très important. Mais les Croix de Feu ont une forme d'ambivalence dans leur populisme. Un populisme un peu, j'allais dire, conservateur. C'est-à-dire, oui, c'est une critique d'un certain type de forme que prend la démocratie, notamment de ses parlementaires. C'est un certain type de régime avec un pouvoir exécutif fort que prône le colonel de la Roque. Et en même temps, ce peuple, c'est un peuple qui doit être guidé, qui doit être guidé par justement ceux qui ont la conscience pour le faire.
Merci Marc Lazare. Dans le prochain épisode, nous ferons un saut dans le temps pour évoquer un mouvement né dans les années 1950, le poujadisme.